Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Eh oui, le processus de paix au Mali serait-il en danger? C'est en tout cas la crainte formulée hier par le chef de la MINUSMA, le chef de la mission de l'ONU au Mali. Il faut dire que ces derniers jours, les hostilités ont repris. Lundi, des groupes pro-gouvernementaux ont chassé les rebelles de la ville de Ménaka. Du coup, hier, la rébellion a attaqué la garde nationale dans la région de Tombouctou et de violents combats ont opposé durant plusieurs heures l'armée à la rébellion près de la frontière mauritanienne. Alors, êtes-vous surpris par ce regain de tension dans le nord du Mali, qui intervient tout de même à un moment extrêmement crucial, puisque c'est théoriquement dans 2 semaines que le gouvernement et les principaux groupes rebelles sont censés signer l'accord de paix. Cet accord sera-t-il signé donc le 15 mai par toutes les parties? Sinon, quelles peuvent être les conséquences? Quelles sanctions faudrait-il éventuellement envisager? On va en parler évidemment, vous êtes nombreux au standard, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. La première question nous vient du Tchad. Nous sommes à N'Djamena, dans la capitale. El Bongo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI, merci de nous avoir appelés. Vous avez des questions concernant l'organisation des prochaines élections dans votre pays?
Justement, je voudrais revenir au sujet des questions d'organisation des élections présidentielles de 2016 au Tchad. Au Tchad, l'opposition réclame un recensement biométrique complet avec type de vérification dans le bureau de vote. Le gouvernement, à son côté, refuse d'installer le système. À cet effet, j'ai 3 questions à savoir. À quoi sert exactement ce kit biométrique? 2. Pourquoi le gouvernement refuse? 3. Sans contrôle de kit, peut-il y avoir des élections libres et transparentes?
Alors c'est vrai qu'on assiste effectivement à un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir autour de ces kits de contrôle biométrique. On va essayer de comprendre effectivement comment fonctionne tout ce système avec notre correspondant au Tchad. Bonjour Mathias Ranako.
Bonjour Juan, bonjour El Bongo.
Alors, à quoi sert exactement ce kit de contrôle biométrique qui fait l'objet d'une vive polémique en ce moment au Tchad?
Oui, je vais essayer d'être très simple. Le kit, c'est une sorte de terminal de reconnaissance digitale qui permet donc, une fois le recensement biométrique réalisé, l'acte délivré, permet de reconnaître que la personne qui se présente au bureau de vote est bien le détenteur de la carte. Et une fois que vous arrivez au bureau de vote, on essaye de faire une reconnaissance digitale qui est enregistrée et envoyée dans un serveur. Donc l'avantage de ce kit, pour être très très simple, c'est qu'une fois que vous avez voté, vous ne pourrez plus à revoter plusieurs fois.
Ouais. Le problème, c'est que le parti au pouvoir et ses alliés expliquent que tout ce système, eh bien, c'est trop compliqué à mettre en place.
Oui, parce que, disent-ils, ça implique une logistique importante, de l'électricité, une connexion Internet, et tout ça est un peu trop compliqué à mettre en place sur un territoire aussi vaste que le Tchad, mais à mon avis, c'est plus une question liée à de l'impréparation et un peu de mauvaise volonté, parce qu'on savait depuis 2007 que on va arriver à des élections. Il va falloir faire de la biométrie pour arriver à des élections. Ça n'a pas pu se faire en 2011 parce que le pays a connu des troubles entre-temps, mais depuis 2011, on savait que on allait arriver à un recensement biométrique complet, donc avec kit et reconnaissance digitale.
Vous parliez...
C'était à 2-3 mois de...
Vous parliez de 2007, c'est une date importante, puisqu'en 2007, un accord politique avait été conclu, et cet accord prévoyait effectivement l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Donc c'est, voilà, c'est une idée qui n'est pas récente, ce n'est pas une revendication nouvelle de l'opposition. Ça fait maintenant 8 ans que l'opposition réclame la mise en place de ce système biométrique.
Oui, et le système avait été acquis, parce qu'il y a eu un accord politique signé de la majorité de l'opposition, qui tous étaient d'accord. Mmh. Et tous se sont rendus compte en 2011 qu'effectivement, ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas assez de temps matériel pour pouvoir recenser, mettre en œuvre ce recensement biométrique. Mais depuis 2011, tout le monde savait qu'on allait arriver aux prochaines élections, à une élection oui. biométrique, à un recensement biométrique. Mmh. Seulement, le pouvoir utilise comme argumentaire les divisions au sein de l'opposition, qui a mis du temps à réintégrer, à intégrer le dialogue politique, tout ça pour expliquer ce retard. Toujours est-il que, sans ce kit de contrôle, un recensement biométrique ne servirait à rien, quoi. Donc oui. nous risquons en fait de passer à côté.
Oui, c'est donc le statu quo. Alors, El Bongo nous demandait et vous demandait à vous s'il pouvait y avoir des élections transparentes au Tchad sans ce dispositif biométrique.
À mon avis, non, parce que si on en est arrivé au terme d'un très long dialogue politique à la nécessité d'imposer un recensement biométrique, ça veut dire qu'il y a eu une reconnaissance implicite de la mauvaise qualité des élections précédentes. Et comme je l'ai expliqué au début de mon intervention, c'est que même si la biométrie n'est pas la panacée, il aurait au moins permis d'éviter les votes multiples, ce qui est déjà... Ce qui n'est déjà pas rien, parce que la plupart des contestations du contentieux électoral, c'est les votes multiples, et il vous souviendra de mémoire de Tchadien que ici, lors de la proclamation des résultats, la CENI nous a habitués à des totaux cumulés de 101-102% sur des bureaux de vote.
Effectivement.
On aurait au moins échappé à ça si on avait eu une biométrie complète.
En tout cas, la biométrie a empêché les fraudes dans un certain nombre de scrutins dans la sous-région. On l'a vu récemment lors des élections au Nigeria, où pour la première fois le pays utilisait ce système biométrique, un système qui a quand même permis de proclamer les résultats en 72 heures et sans contestation, ce qui était pour le coup une première au Nigeria. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathias Ranako, correspondant d'RFI au Tchad. Merci à El Bongo qui nous appelait de N'Djamena. Il est 10h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Tous les matins, la rédaction prend le temps de vous éclairer davantage, de vous apporter le complément d'informations nécessaires qui vous permettra de mieux comprendre tous les événements à travers le monde. Alejandro Valente, le chef du service des sports, vient tout juste de nous rejoindre. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. À chaque fois que vous êtes là, c'est pour parler football.
Bah oui, les choses sérieuses. Hein.
Les choses sérieuses. Non mais c'est très sérieux puisqu'on va s'intéresser quand même aux deux demi-finales de la Ligue des Champions et on sait que les enjeux sont extrêmement importants. Junior, bonjour.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale FIKA, El Ref, Alejandro Valente.
El Ref, le chef, quelle notoriété Alejandro.
Bah oui, hein. On prend du galon.
Junior, vous avez des questions donc sur les deux demi-finales de la Ligue des Champions.
Ok Juan Gomez, ma première question était celle de savoir quel est l'historique des confrontations entre le Real et la Juve. Et aussi, quelles sont les chances de la Juve pour battre les tenants du titre? Alors, Real Madrid.
L'une des affiches donc des demi-finales de la Ligue des Champions, ce sera Juventus Real Madrid, match aller mardi prochain, le 5 mai.
Exactement, à Turin.
À Turin, et le match retour donc une semaine plus tard, le 13 mai. Sur le papier, Alejandro, le Real Madrid, tenant du titre tout de même, favori face à la Juve.
C'est vrai que le Real, comme vous le disiez, tenant du titre, en plus avec un match retour à Bernabeu, a priori les armes pour se qualifier une nouvelle fois pour la finale. Mais l'historique montre que c'est quand même très équilibré entre ces deux équipes et la Juventus, qui n'est joué plus de demi-finale depuis, je crois, 14 ans, arrive quand même avec l'ambition d'aller au bout également.
Ah, mais alors quand on regarde l'historique, justement, c'est important de regarder l'histoire pour mieux comprendre l'actualité. Les deux équipes se sont rencontré, je crois, 16 fois.
Exactement, oui.
En Coupe d'Europe.
C'est très. En Coupe d'Europe, c'était Coupe d'Europe des Champions ou Ligue des Champions. Oui. Ils ne se sont jamais affrontés dans une autre compétition car c'est deux grandes équipes habituées à jouer la grande Coupe. Et l'avantage du Real est très faible, hein. 8 victoires contre 7, un seul match nul. D'ailleurs, c'était le dernier match entre les deux équipes qui s'est terminé 2-2 à Turin il y a un an et demi. Mais sinon, c'est très équilibré.
Ouais. Quels sont, en quelques mots, les atouts du Real, les atouts de la Juve?
Le Real, on connaît, c'est surtout son trident offensif, hein, composé de Bale, de Cristiano Ronaldo et de Benzema. Même si Benzema et Bale sont un peu blessés ces derniers temps, ils devraient pouvoir revenir. Il y a aussi un milieu de terrain qui est assez efficace, même si Modric va manquer. La Juventus, c'est évidemment c'est sa défense, c'est la meilleure défense de cette parmi les quatre demi-finalistes. Et puis des attaquants qui peuvent jouer en contre dans les espaces avec Tevez notamment qui est très dangereux.
Ouais. Junior, voilà pour votre première question. Donc petit avantage, on va dire, pour le Real Madrid si on regarde les matchs précédents, hein, qui ont opposé ces deux équipes. 8 victoires pour le Real, 7 pour la Juve et un match nul. Votre deuxième question, Junior.
Oui, Ron Gomez, ma deuxième question, je voulais juste savoir, Josep Pep Guardiola, qui est l'actuel entraîneur du Bayern de Munich, va retrouver son ancienne équipe qui est le Barça. Et je voulais savoir quelle va être sa tactique pour battre cette équipe des Barça qui a retrouvé ses meilleures formes avec le fameux trio MSN, Messi, Suarez et Neymar.
Ouais, Pep Guardiola qui va revenir finalement au Nou Camp, au Barça, non plus comme entraîneur évidemment puisqu'il était au Bayern, mais en tant qu'adversaire, ça va être un moment incroyable évidemment.
Ah oui, forcément, ça va être extraordinaire et peut-être c'est difficile de répondre à cette question parce que l'atout de Guardiola, ça va être de surprendre Barcelone.
En même temps, il connaît par cœur Messi.
Voilà, c'est son grand avantage. Il connaît toutes les faiblesses et toutes les forces de chacun des joueurs adverses et qui le savent et qui vont craindre un petit peu cette connaissance. C'est toujours difficile d'avoir face à lui, contre soi, quelqu'un qui vous connaît très très bien. Donc c'est l'atout majeur de Guardiola, car au niveau des équipes, Barcelone a quand même l'avantage. Ils sont au complet. Mmh. Ils tournent à plein régime, alors qu'on a vu le Bayern a beaucoup de blessés. Il y a Robben qui est à nouveau blessé. Il y a Lewandowski qui a eu avant-hier une fracture de la mâchoire, qui pourrait jouer, mais c'est quand même compliqué. Il n'y a pas Ribéry, il n'y a pas les défenseurs Alaba et Bastuver, donc il y a beaucoup d'absents et ça va être un handicap certain pour le Bayern.
Et le Barça va vouloir évidemment prendre sa revanche. On rappelle qu'il y a 2 ans, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en demi-finale de la Ligue des Champions et le Barça avait pris à l'époque une véritable déculottée.
Oui, voilà, on se rappelle de ces fameux 4-0 mais je pense que c'est plus que ça, c'est quand même la dimension d'avoir face à soi Guardiola. C'est d'ailleurs, les psychanalystes s'en donnent à cœur joie dans la presse espagnole ce jour-ci, car c'est un match qui a une dimension qui dépasse largement le cadre du terrain.
Voilà, une rencontre qui promet donc d'être spectaculaire. Le match aller Barcelone-Bayern, ce sera le 6 mai, retour le 12 mai. On a répondu à vos questions, Junior?
Ouais, très bien, Juan Gomez, ici. Merci de votre permission. J'allais juste passer quelques dédicaces à mes grands frères au niveau de l'Afrique du Sud, à Cape Town.
D'accord. Il y a beaucoup de Congolais qui nous écoutent effectivement en Afrique du Sud. Votre finale rêvée, Junior, c'est qui? C'est quelle affiche pour la Ligue des Champions?
En fait, j'aimerais que ça puisse être un classico.
Real Madrid, FC Barcelone. C'est vrai, Alejandro Valente, ce serait une première dans l'histoire.
Une première en finale, tout à fait. Oui, ouais. Ils se sont déjà affrontés des dizaines et des dizaines de fois dans diverses compétitions, mais en finale des Ligues des Champions, ça ferait quelque chose et ce serait à Berlin.
À Berlin, effectivement. Merci Alejandro Valente d'être venu répondre donc à Junior. Dites-nous quelle serait pour vous la plus belle finale de la Ligue des Champions. On pourra en parler demain dans la Libre Antenne. Le vendredi, vous connaissez le principe, vous commentez l'actualité de votre choix. 10h24 à Paris, n'oubliez pas dans un bon quart d'heure maintenant, notre débat sur le processus de paix au Mali. Ce processus est-il en danger au vu des événements de ces derniers jours, du regain de tension sur le terrain avec des combats hier entre l'armée et les rebelles? 33 9 693 693 70. Fayala nous appelle de Guinée. Bonjour Fayala.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous êtes à Cancan, pour être très précis, et vous avez des questions concernant l'élection présidentielle au Kazakhstan.
Oui, Juan, j'ai des questions. Et le président kazakh vient d'être élu pour sa 5e fois avec un score mirobolant de près de 98% des voix lors de la présidentielle. Je voudrais savoir comment peut-on expliquer un tel sport? La deuxième question, pourquoi la communauté internationale ne réalise-t-elle pas? Est-ce qu'il y a eu de l'opposition au Kazakhstan? Est-ce qu'il y a eu des candidats à cette présidentielle?
Oui, alors beaucoup de questions d'un coup, on va essayer d'y répondre évidemment avec un spécialiste du Kazakhstan, spécialiste à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Samuel Karnagar. Allô ?
Oui, ah, bonjour.
Vous êtes bien là, voilà, je vous avais pas entendu, très bien. Effectivement, cinquième mandat donc pour Nursultan Nazarbayev, réélu donc le week-end dernier, ça fait 25 ans qu'il est à la tête du Kazakhstan. En même temps, cette réélection avec un score record, hein, 97,7%, c'est un résultat sans surprise.
Oui, alors effectivement, ce résultat constituait pas vraiment une surprise. On savait qu'il allait être élu, on savait juste pas les proportions dans lesquelles il allait être élu. On avait peut-être une petite indication avec l'élection en Ouzbékistan, l'Ouzbékistan voisin qui est un peu le rival du Kazakhstan, et le Islam Karimov, le président, avait reçu 90% des voix quelques semaines auparavant. Donc on se doutait que Nazarbayev voudrait faire un petit peu mieux.
Ouais. Il y a eu fraude ou pas au Kazakhstan?
Alors, sur le résultat lui-même, 97,7% de soutien au président Nazarbayev, c'est probable que dans la population, il ait un tel soutien, parce qu'il n'y a pas énormément d'alternatives, en fait, et qu'il est considéré comme le père de l'État kazakhstanais moderne. En revanche, le chiffre sur lequel on peut tiquer, on peut avoir des doutes, c'est les 95% de participation.
Ouais, ce qui est un record, là, hein, d'ailleurs, un record. Voilà, dans l'histoire du Kazakhstan.
Tout à fait. Et effectivement, là, on peut, et d'ailleurs, certaines institutions internationales ont émis des doutes sur le fait que les procédures avaient été bien respectées. Mais concrètement, pour le soutien, le score de Nazarbayev, il est représentatif du soutien qu'il peut avoir dans la population.
Alors, il y avait tout de même deux candidats face au président sortant. On peut dire deux candidats fantoches?
Oui, deux candidats fantômes. Il y en avait un qui venait du Parti communiste et un autre qui était à la tête de la Fédération syndicale du Kazakhstan. On ne les a quasiment pas vus dans les médias. Ils ont fait l'objet de très peu d'articles. Il n'y a quasiment pas eu de campagne, hein, pour ainsi dire, parce que tout le monde savait le résultat. Donc, après tout, qui est eu deux candidats au lieu d'un seul, ça a pas changé grand chose.
Oui, l'un a obtenu 1,6% des voix et l'autre 0,7%. Voilà. Il existe tout de même une opposition au Kazakhstan, c'est ce que nous demandait Fayala?
Non, pas vraiment. Il n'existe pas vraiment d'opposition. Les conditions, en fait, permettent pas vraiment l'émergence d'une opposition. Il y a une société civile qui se développe petit à petit avec un réseau d'ONG, etc. Mais la presse et la liberté d'expression sont très contrôlées. Il y a des petites luttes d'influence dans l'administration. Mais la figure du président Nazarbayev est tellement incontestée qu'il n'y a aucune tête qui dépasse, si vous me passez l'expression.
Ouais. Mais comment expliquer qu'il n'y a quasiment pas de réaction de la communauté internationale?
Alors, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu l'OSCE, par exemple, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et l'Union Européenne aussi, qui ont déclaré que la présence des trois candidats ne reflétait pas vraiment une réelle variété politique. Même les observateurs, d'ailleurs, de la CEI, donc la Communauté des États Indépendants, ont utilisé une formule assez élégante en disant qu'ils avaient remarqué des violations qu'ils n'avaient pas remarqué de violations susceptibles d'avoir un impact sur le résultat final. Sous-entendu, il pouvait bien y avoir des violations, de toute façon, on savait le ouais. résultat final. Donc voilà le type de réaction qu'il y a eu. Il y a eu des messages de félicitations, notamment de
Moscou.
De Moscou, de Minsk également, qui a été le premier à féliciter, mais aussi de Viktor Orban, par exemple.
D'accord.
Qui a félicité le président Nazarbayev.
Et après, je suis obligé de vous interrompre. On va marquer une pause avec le point complet sur l'actualité. On rend l'antenne à la rédaction et on revient dans 10 minutes. C'est promis. Restez avec nous.